Libre radio, la radio qui liberté, liberté.
Bonjour et bienvenue à la nouvelle émission de Libre Radio, la radio qui libère ta liberté. Alors, cette semaine encore, deux invités exceptionnels. Donc, nous avons Mademoiselle Laetitia Cados, plus connue sous le nom
Bonjour.
de Laetitia tout court. Alors, Laetitia qui est actuellement ministre de l'Intérieur. Donc, elle va nous expliquer un peu ce qui se passe au sein du gouvernement, comment elle a fait pour. Pourquoi elle a changé de poste. Sinon, l'autre invité exceptionnel que nous avons, eh bien, c'est un esprit, Wilfried. Bonjour Wilfried.
Bonjour à tous.
Alors,
Et très
Wilfried.
content d'être revenu sur la Terre des mortels. C'est plaisant.
Afin de vous présenter, Wilfried, j'aimerais d'abord pouvoir dire votre nom, que j'ai toujours eu beaucoup de mal à prononcer. Pourriez-vous prononcer votre nom, Wilfried?
Alors, mon nom normal et d'origine, c'est Wilfried Jupikriek. C'est le nom de mon
Jupikriek?
père, Phénix Jupikriek. Tout à fait.
D'accord, on sera sans souvenir. Sinon, avec nous, nous avons aussi Roland. Bonjour Roland, j'avais oublié évidemment.
Bonjour Robert. Toujours en forme cette semaine?
Comme toujours, Roland, ça me fait plaisir de vous retrouver. Surtout que là, nous avons vraiment deux invités d'une rare qualité.
C'est vrai que c'est pas souvent qu'on voit des morts revenir à notre émission.
Ben c'est le premier esprit qu'on a cette semaine.
Enchanté.
Alors nous allons commencer évidemment honneur aux dames. Alors nous allons commencer avec Laetitia Cados. Bonjour Laetitia.
Bonjour Robert, je suis très heureuse de pouvoir m'exprimer devant tout le peuple confédéré ce soir sur vos ondes.
Je dois dire que ça nous fait plaisir aussi de vous avoir. Surtout que la semaine dernière, nous avions avec nous le docteur Narcotique. Donc, qui était votre prédécesseur. Vous l'avez remplacé cette semaine en tant que ministre de l'Intérieur?
Oui, tout à fait. J'avais commencé dans le gouvernement de Télia au poste de ministre de la Guerre, ce qui devait normalement pour moi être un petit peu une sorte de break par rapport à mes occupations précédentes, étant donné que depuis l'application de la doctrine Kou, la Confédération est censée être en paix avec tout le cybermonde et adopter une neutralité à toute épreuve. Donc ministre de la Guerre dans ces circonstances, c'était censé être presque des vacances. Je dis bien presque parce qu'être ministre, c'est quand même jamais une sinécure. Et en fin de compte, au bout d'à peine une semaine, Télia m'a demandé de remplacer le docteur Narcotique au ministère de l'Intérieur pour des raisons qu'il n'a pas trop explicitées, surtout lorsque je l'ai menacé de mon arme, étant donné que cela contrariait les projets de vacances avec Alexis.
Donc en fait,
Mais alors,
le
excusez-moi.
poste de ministre de ministre de la Guerre, c'est une planque, quoi. Pour ça
Je n'irai
qu'ils
pas
ont mis
jusqu'à dire
le ministre.
une. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une planque, je dirais juste que c'était peut-être moins intense que le poste de présidente du Sénat que j'occupais auparavant, et que c'était certainement moins intense aussi que le poste de ministre de l'Intérieur que j'ai repris maintenant. Ensuite, pourquoi y avoir mis Vladimir plutôt que quelqu'un d'autre? Je pense que c'est plutôt à Télia de répondre à cette question, et étant donné qu'il est resté très longtemps enfermé avec le comité constitutionnel ces derniers jours, il n'a pas été donné l'occasion d'entendre ses explications sur ce point.
Alors moi c'est une chose que je m'interroge quand même. On a vu un grand comment dire remodelage de l'équipe ministérielle, l'équipe gouvernementale. Comment vous expliquez tous ces changements de ministres qui sont pas vraiment des changements en fait? On a assisté à une vague de remplacement au sein du gouvernement. Comment vous pouvez l'expliquer ça?
Écoutez, il est possible que la réforme des naturalisations lancée par le docteur Narcotique n'ait pas eu le succès escompté et que par conséquent, pour Télia, me nommer à sa place, c'était un moyen de dire ok, on va tourner la page et commencer d'autres réformes avec un autre ministre. Ensuite, placer le docteur Narcotique au ministre de la Justice, hein, c'est une façon de dire ce n'est pas l'homme que je condamne, mais plutôt la réforme qu'il a entamée et qui n'était pas à la hauteur de l'espérance. Et comme Télia fait visiblement encore tout à fait confiance en le docteur Narcotique, il a préféré le nommer à ce poste important de ministre de la Justice plutôt que de le congédier purement et simplement. Ensuite, me nommer au ministère de l'Intérieur, c'est un petit peu, sans vouloir non plus paraître petit peu plaisanteuse, mais c'est un petit peu misé sur une valeur sûre, puisque c'est un poste que j'avais déjà occupé à plusieurs reprises. Donc c'est une façon de ne pas aller au-devant de mauvaises surprises. Et puis enfin, nommer Vladimir au ministère de la guerre, c'est aussi, je pense, une façon de reconnaître en Vladimir un homme politique sur qui Télia a su s'appuyer, et de la même façon, ne pas le mettre à la porte, en dehors du gouvernement, simplement pour des petites crises qui étaient traversées récemment.
Oui, mais d'ailleurs, en parlant de Vladimir, c'est assez troublant de voir revenir à un poste, donc celui de ministre de la guerre, alors que lui, c'était quand même un ministre qui était mis à plusieurs reprises en accusation au poste de la justice. Est-ce que vous trouvez pas que c'est un peu mal vu de chercher à couvrir Vladimir en le mettant à un peu tous les postes jusqu'à ce qu'il soit soutenu ?
Alors, sur ce point, il est difficile de répondre, il faudrait arriver à diviser exactement le désaveu qui était lié, je dirais, au travail qui aurait été jugé mauvais, le travail de Vladimir, donc qui aurait été critiqué par les citoyens confédérés, d'une part, et puis d'autre part, le fait qu'il a participé donc, à une opération qui est plutôt du domaine des services secrets, qui était la récupération du broker du ministère de l'économie, qui pardonne. Vladimir, en effet, d'origine crélandaise, hein, c'est un secret pour personne, connaît très bien Thi Pardono et le milieu et les nébuleuses d'influence dans lesquelles il évolue, et était donc un des mieux placés pour courir après cet homme. Je comprends donc tout à fait que Vladimir ait choisi de négliger le devoir qu'il avait à son ministère pour courir après Thi Pardono, même si du coup, ça a été vivement reproché par de nombreux citoyens qui pensaient qu'il aurait mieux fait de transmettre le dossier à Galatea et rester à son ministère. Bon, on ne peut pas refaire l'histoire. Hein. Ce qui est fait est fait. Vladimir a couru et rattrapé plusieurs fois Thi Pardono, il l'a ramené. Thi Pardono a été envoyé en Australie. Je ne pense pas qu'on puisse refaire l'histoire et je ne sais pas si le désaveu qu'il a subi est en plus grande partie dû à son absence pour cause de poursuite de Thi Pardono ou bien vraiment un reproche de fond. Donc je préfère douter en touche sur cette question.
Et pourtant, de son fait, c'est le narcotique qui a ramené Thi Pardono.
Alors, narcotique a participé à l'opération, en effet, tout comme j'ai participé à la première récupération de Thi Pardono, mais c'était une participation, je dirais, auxiliaire, c'est-à-dire que Vladimir m'a appelé une fin de matinée, si j'ai bonne mémoire, et il m'a dit, Laetitia, il faut prendre ta voiture tout de suite, hein, et viens à Valépourpre, ou à Krakow, c'était à Krakow, j'ai un braqueur de Beko, là, il faut que tu le ramènes à Forum, et que tu le fasses emprisonner au plus vite. Donc j'ai pas posé plus de questions, le temps jouait contre nous, et donc j'ai foncé, je suis arrivé à Krakow, j'ai récupéré Thi Pardono, je l'ai ramené à Forum, et ensuite, le procureur n'a pas pu mettre un lancer les enquêtes tout de suite, donc Thi a pu s'échapper et il a pu relancer une poursuite. Donc de la même façon, lorsque Narcotique a récupéré Thi Pardono, c'était, je dirais, une opération avant-le qui était orchestrée par Vladimir. Hein. Même si Vladimir a aussi des défauts, ou ce qu'on peut lui reprocher, dans cette opération, il était vraiment le chef d'orchestre qui a parfaitement su faire œuvrer ses troupes afin de ramener ce criminel.
Vous avez aussi dit un moment que Narcotique, il avait été nommé ministre de la Justice, parce que c'était pas en fait la personne qui était condamnée, mais c'était la réforme qui n'avait pas marché, mais que Télia ne voulait pas condamner l'homme. Alors ça, on peut le comprendre, mais le fait de vouloir à tout prix renommer un homme, donc le docteur Narcotique, à n'importe quel poste, pourvu qu'il reste ministre, est-ce que ce n'est pas une manière, par contre, de condamner le reste du peuple confédéré en lui faisant comprendre que, de toute façon, quand un ministre changera, les confédérés n'auront jamais la possibilité de devenir ministre, que ce sera toujours les mêmes qui vont tourner, toujours les mêmes qui vont se relayer?
C'est absolument un problème du système de désaveu que nous avons en Confédération libre, c'est qu'il est difficile de trancher entre la condamnation d'une action et la condamnation d'un homme politique. Je comprends tout à fait, ayant été présidente par intérêt de moi-même, que lorsqu'on a la chance d'avoir dans son équipe un ministre actif et compétent, on souhaite le garder dans son équipe. Parce que c'est, quoi qu'on en dise, ce n'est pas si aisé de trouver des gens qui vont avoir la carrure que Télia ait choisi de garder des gens comme Vladimir ou le docteur Argotic. En revanche, vous avez tout à fait raison dans la mesure où il faut aussi savoir indiquer pour le peuple, bon ben voilà, cet homme-là, on n'en veut plus dehors, parce que qu'il soit à l'intérieur, à la justice, à la guerre, n'importe où, on ne veut plus le voir. C'est effectivement difficile et le peuple doit, au-delà du simple désaveu binaire et presque bipolaire, s'exprimer aussi sur notre place publique pour dire « je désavoue ce ministre parce qu'il a fait ceci ou bien parce qu'il est incompétent », en développant un petit peu toute l'importance du débat et de la liberté d'expression que nous sommes heureux d'avoir en Confédération Libre, bien sûr.
Le docteur Narcotique, justement, donc la semaine dernière, il nous disait des choses assez intéressantes sur l'ambiance au sein du gouvernement. Il semblait dire qu'il y avait d'autres ministres, vous entre autres, en qui il n'avait pas vraiment confiance. Alors, en tant qu'homme, hein, personnellement, est-ce que vous-même, vous avez des tensions avec certains membres du gouvernement actuellement ?
Eh bien, moi-même, je suis très détendu. Vous savez, je pense que j'aurais du mal à pouvoir exercer mon travail, faire mon travail de ministre ou de présidente, dans une ambiance vraiment tendue, de méfiance, de défiance. Je ne dis pas qu'être ministre, c'est une promenade de santé et qu'on y va en étant détendu, sans aucun stress ou quoi. Il faut bien sûr une certaine pression, une certaine émulation. Mais je pense que j'aurais énormément de difficultés à travailler dans une équipe avec laquelle il manquerait cette sorte de confiance. Quoi. Pour ma part, je n'ai jamais eu de réels problèmes avec le docteur Narcotique. Je sais qu'il m'a fait beaucoup de reproches vis-à-vis de Lyra Crayon, par exemple. Pour lui, il ne comprenait pas que je garde cette femme à un poste général, ou bien sur d'autres petits points. Mais disons que je me suis déjà exprimée sur ces points. Il n'y a pas tellement eu de contre-droit de réponse. Donc j'ai estimé que c'était pas nécessaire de poursuivre.
Je souhaiterais rebondir sur ce que vous dites là, sur Nyarla Kraleon. Il semblerait qu'elle a détruit aujourd'hui, ou du moins tenté de détruire, un bâtiment destructurien. Un bâtiment qui se trouve au Valégro, mais donc le propriétaire était un destructurien, Svarog quelque chose. J'aurais aimé savoir, qu'est-ce que vous pensez des actes de Nyarla ?
Alors, un bâtiment, donc c'est la Siximax Varog, oui, que je connais tout à fait. Écoutez, je n'ai pas encore eu vraiment connaissance de ce dossier précis, là, celui dont on parle en ce moment. Là, je ne peux pas trop me permettre de sortir mon téléphone pour appeler les agents du RIX pour avoir toutes les informations en direct, vous comprendrez si c'est pas très correct.
On a pris des sources, hein. Il y a eu des bombes. On vous confirme, il y a eu un attentat qui a été commis. Hein.
Ça, je ne contredis absolument pas l'information. Les informations qui m'intéressent ensuite de manière complémentaire, c'est quel était ce bâtiment, qui a participé à l'opération, est-ce qu'il y a eu des complices. Et puis surtout, ce bâtiment, pourquoi a-t-il été détruit? Parce que même dans une, on va dire, le mouvement d'État, même dans une vendetta entre de clans, de familles, comme les Kraleon d'un côté, et puis certaines familles destructuriennes de l'autre, il y a forcément des raisons aux actions. Ça n'existe pas. Enfin, un mafieux ou un honnête homme qui le matin se lève et se dit « Tiens, je vais aller embêter mon meilleur ou mon pire ennemi en allant abattre sa clôture, pisser sur ses canards, etc. » Non, ça n'existe pas. En général, il y a une base. Par exemple, on va détruire son bâtiment parce qu'il a... Il est allé à l'encontre d'un plan d'occupation des sols, il y a toujours une petite raison derrière, et c'est en suivant cette raison qu'on arrive à des choses intéressantes. Par exemple, il y a quelques temps, un bâtiment comme ça a été exproprié au Valégro, parce qu'il était justement contre le POS, contre plein de choses. Donc c'est pour ça que je dis que j'aimerais avoir le contexte avant de m'exprimer vraiment sur la question comme ça.
Laetitia, je comprends ce que vous dites quand vous dites qu'en fait Nyarla a sûrement fait quelque chose avec des raisons. Donc ça on peut pas juger. On comprend tout à fait. Ce qui est quand même gênant, on en revient toujours au fait que cette femme, elle est générale. Comment vous pouvez concevoir qu'elle est générale, elle est censée occuper une fonction de générale, elle est censée avoir des tâches, des missions, elle est censée être affectée quelque part, mais elle trouve le temps comme ça d'aller détruire le bâtiment d'un compatriote et tout le monde s'en fiche, elle continue de toucher son salaire. Même sans qu'il y ait de peine judiciaire, on devrait au moins automatiquement enlever le salaire, non ?
Alors, ça c'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, il faut avoir l'intégralité du dossier et les circonstances dans lesquelles cela s'est produit. Par exemple, là je me réfère que mettre une hypothèse, donc je ne dis pas que c'est le cas ou que ce n'est pas le cas, mais comme vous le savez, il y a en ce moment un host confédéré, c'est-à-dire une armée médiévale traditionnelle, helvétiste, qui est au Valais-Gros afin de lutter contre une tentative d'ingérence de suppôts de la grande déesse, qui serait là-bas en train d'essayer de prendre le pouvoir de manière illégitime. Léodagan de Comélide, qui est donc royaliste bien sûr, hein, mais qui est aussi un ancien confédéré, et qui est un homme que je juge digne de confiance, à tort ou à raison, c'est un autre débat. Donc Léodagan de Comélide est venu nous demander de l'aide afin que nous puissions défendre les valeurs evgéniennes sur son sol. Aide que nous lui avons accordée, nous lui avons confié un host, donc, pour qu'il puisse aller au Valais-Gros défendre les valeurs evgénistes. Alors, à partir de là, je ne dis pas que c'est le cas ou que ce n'est pas le cas, mais peut-être que le bâtiment que Nirva Kraleon a attaqué, donc qui est une infirmerie, on va prendre un instant là, peut-être que c'était un repère d'adorateurs de la grande déesse qui se réunissait là pour distribuer les armes avant de partir au front contre la ville de Nograd qui est voisine. Je ne dis pas que c'est le cas ou que ce n'est pas le cas, mais je ne peux pas prendre une sanction contre une de... Enfin, en plus, ce n'est plus moi qui suis responsable, mais on ne peut pas prendre une sanction contre une générale juste en regardant le premier degré, les faits comme ça. Bien sûr, je pense qu'il y a une enquête. Je pense que Vladimir, qui est maintenant ministre de la guerre, va mener son enquête. Et si effectivement il y a eu abus de la part de Nirva Kraleon, je suis persuadée qu'il saura la mettre à pied, tout comme elle avait été mise à pied il y a un peu plus d'un mois pour des fêtes relativement douteuses aussi.
Oui, car on comprend bien quand même que là, une générale qui fait exploser le bâtiment, a priori, si aucune sanction n'est prise, c'est comme si c'était l'armée confédérée qui avait détruit ce commerce donc de Seksim Maxvarog. Et c'est là que ça pose problème. Même là, pour les autorités destructuriennes, ça va leur filer du boulot. En plus, avec le changement de ministre de la guerre, on va avoir l'impression de refaire les mêmes démarches, toujours pour une suspension de Nirla. Et qu'au final, ça n'avance pas.
Alors, de ce côté-là, s'il y a un point sur lequel je peux vous rassurer, c'est que j'ai eu soin de transmettre tous les dossiers à Vladimir concernant le ministre de la Guerre, dossiers qui d'ailleurs sont publics, puisque j'ai fait une annonce que tout le peuple a pu consulter pour indiquer les nouvelles affectations de l'armée, le rôle de chaque bataillon, de chaque général, rôle d'ailleurs qui est maintenant plutôt diplomatique et de lien, plutôt que vraiment militaire. Mais donc je comprends tout à fait votre inquiétude vis-à-vis des actions de Nirva. Comme je vous le disais, une enquête relativement stricte va être menée. Maintenant, comme j'ai déjà expliqué par le passé, là on a une action en dehors du territoire confédéré, mais contre un bâtiment confédéré, mais dans une province dans laquelle il y a en ce moment même une action militaire d'interposition.
Une action militaire.
Donc voilà, une action, je dirais, d'interposition d'un bataillon evgéniste qui va empêcher une ingérence filienne, disons, pas tellement filienne, en fait, mais plutôt de la grande déesse, même si on a tendance à faire un petit peu la collusion entre les deux, dans la politique locale. Donc, n'étant plus ministre de la guerre, je ne peux pas prétendre avoir accès aux informations confidentielles de l'état-major, mais étant donné que je suis très souvent mêlée à ces débats, je pense sincèrement que j'aurai une discussion à ce sujet avec Nirva. Et d'ailleurs, je regrette de ne pas avoir eu cette discussion avant de venir m'exprimer sur vos ondes, ce qui m'aurait permis de vous donner des informations toute fraîche.
Une dernière question, Laetitia. Au niveau des autres relations avec les provinces un peu indépendantistes comme Limoges ou les provinces qui nous ont déjà quittées comme le Poulpe ou le Wario-Land, est-ce qu'on a une avancée? Narcotique nous avait parlé de quelques progrès. Est-ce que vous allez continuer dans sa politique ou changer de bord?
Alors, je dirais que pour chacune de ces provinces, la réponse sera modulée en fonction des éléments du terrain. Par exemple, Limoges, dossier que j'avais suivi de très près, en particulier pour ses délicieux fromages et autres spécialités locales que nous avons goûté avec des APR, n'est-ce pas ? Limoges, donc, est un dossier que je vais reprendre avec beaucoup d'attention, afin d'apaiser la balle et les tensions le cas échéant. Requiem, les réunions du gouvernement semblent nous montrer que le problème à Requiem serait surtout économique. Le chômage sévit là-bas de manière encore plus féroce et impitoyable qu'à Forum, et les gens, le peuple libre de Requiem attend une action forte, économique, de la part de la Confédération. En ce qui concerne les anciennes provinces confédérées, telles que le Poulpistan, le Loire-Irlande, la Mistivie, le Valais-Gros, l'École des Disciples, la Carénie, liste non exhaustive, je pense que là aussi, les réponses doivent être mesurées. Par exemple, pour le Loire-Irlande, il me paraît tout à fait inopportun aujourd'hui de débarquer avec nos grands sabots au Loire-Irlande pour dire « rejoignez-nous », alors que l'Orkan, le célèbre Zimpanzer, est en train de passer le stade de l'élection pour être grand khan. Quant au Poulpistan, la situation, je dirais, s'annonce sous un angle un petit peu plus favorable, puisque nous avons plusieurs poulpes qui sont revenus en confédération, et une sorte de dynamique qui est en train de se créer, et qui aboutira peut-être, ou pas, à un rapprochement assez fort du Poulpistan avec la confédération. Je préfère ne pas parler de retour du Poulpistan en confédération libre, car il ne faut pas vendre la peau du têteux avant de l'avoir tué, mais il y a un rapprochement qui se fait, qui est là. En ce qui concerne la Mistivie, j'aurais bien aimé pouvoir entendre Télia s'exprimer sur le dossier, puisque c'est lui qui s'en occupe de manière toute personnelle. En ce qui concerne en revanche la Carénie ou l'École des Disciples, les contacts avec ces provinces sont virtuellement nuls, donc on ne peut pas s'exprimer sans faire un coup d'esbrouf et de langue de bois tout à fait politique. Et puis pour terminer cette énumération, pour le Valais-Gros, donc nous avons des rapprochements très forts, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisque Léodagan de Cormélide est venu donc en confédération pour demander notre aide pour assurer la souveraineté de sa terre. Donc, encore une fois, il ne faut pas non plus tout de suite aller planter les drapeaux confédérés sur les terres valais-grognardes, mais je pense que, quelle que soit l'issue de cette intervention, les liens avec le Valais-Gros en seront très fortement renforcés.
Excusez-moi, mais une intervention, là, j'ai un flash pendant 5 minutes. Revenons sur l'affaire Nirla. Donc, j'ai Loup Solitaire qui vient de me contacter. Elle est en relation avec Nirla Kraleon. Elle vient de lui demander à celle-ci si elle avait effectué les attentats en son nom ou au nom de l'armée confédérée. Et Nirla Kraleon répond, donc je cite, « Bien sûr, je suis en accord avec les autorités sur place, soit le roi lui-même, tous ces bâtiments sont mal placés. » Alors, est-ce que vous n'avez pas l'impression un tout petit peu qu'il y a du foutage de gueule là, c'est Nirla nous avoue clairement qu'elle fait ça à son titre privé, elle fait sauter des bâtiments à d'autres confédérés, parce que le roi lui a demandé. Qu'est-ce qu'elle fout là en tant que général ?
Alors, comme vous l'avez souligné, elle n'agit pas vraiment là en tant que général confédéré. Elle a mentionné donc apparemment l'approbation du roi de Rudveni. Donc c'est vrai qu'on est au Valais-Gros qui est...
C'est grave ça quand même, c'est très grave. C'est grave qu'un général vous dise qu'il obéit au roi du Valais-Gros.
Alors, il n'obéit pas en tant que général, puisque à ma connaissance, l'armée confédérée ne dispose pas d'une unité de démolition et de génie comme ça. Donc, je pense qu'elle agit à son titre personnel. Et bon, après, on peut être général ou président ou ministre de l'Intérieur ou procureur. Et parallèlement à cela, le week-end, participer à d'autres opérations. Ça peut être la dépollution, qui est le jeu d'hiver, par exemple. Bon, par exemple, moi, je peux très bien être directrice commerciale de la deuxième plus grande organisation commerciale confédérée et participer quand même à des opérations écologiques. Alors que, certains experts économiques disent que c'est c'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème de la pollution, par exemple. Mais parce que j'aime bien respirer l'air pur, je peux participer quand même. De la même façon, Nerla Crayon, qui a de très fortes attaches à Napoléon, au Valais-Gros et donc au royaume de Rudvény de manière plus générale, peut être sollicité pour ses talents de déminage par le roi donc, de Rudvény qui lui demanderait donc à titre personnel d'intervenir sur ce dossier. Attention, hein, je ne me fais pas l'avocate de Nerla Crayon ni de ses agissements au Valais-Gros, je donne simplement une piste qui permettrait d'expliquer son action de manière tout à fait indépendante de son poste de général en Confédération libre.
Alors pourquoi Spagor à Mary et pourquoi ne pas lui avoir tout simplement demandé de la démonter si elle...
Alors, je ne sais pas quelles ont été les actions qui ont été prises de ce côté-là, les sommations, les choses de cette sorte, mais c'est vrai que quand on prend ce genre de dossier en route, on s'aperçoit bien souvent que la plupart des intervenants ont un petit peu négligé la chose la plus importante et principale dans ce cas-là, qui est la communication. C'est-à-dire que la communication... pas seulement je me mets à ma fenêtre, j'attends que mon voisin passe et je lui dis « Hé, voisin, ta boîte aux lettres dépasse sur mon terrain ». Et puis le voisin, de toute façon, il est passé, il écoutait autre chose. Et puis le lendemain, on recommence. Et puis au bout de 4 jours, on dit, oh là là, le voisin, là, ça fait 4 fois qu'il passe devant chez moi. Et ça fait 4 fois que je lui dis que sa boîte aux lettres est mal placée. Il en a marre, je vais faire sauter sa maison. Il y a une petite démesure, hein, je caricature un petit peu, bien sûr. Mais bien souvent, lorsqu'on s'intéresse à ce genre de dossier, on découvre des choses un petit peu comme ça. Des gens qui sont persuadés d'être dans leur bon droit parce qu'ils ont fait tout ce qui leur paraissait nécessaire, et puis avec le recul qui s'impose, on se rend compte qu'il y a eu un manque de communication, et généralement de la part des deux bords, bien entendu, parce que ce serait trop facile si on pouvait mettre tous les torts sur un des deux camps. Donc, dans ce cas-là, je pense qu'il serait intéressant de mettre à la même table Nerla Crayon et puis Maxime Farog, et puis peut-être éventuellement les autorités aussi des structuries et du Valais-Gros, à titre de témoins de sourds, n'est-ce pas, et puis de les écouter parler à tour de rôle, et puis de remonter un petit peu les chevaux complexes de ce conflit, pour savoir non pas qui le premier a vendu sur les dents de l'âne qu'il a vendu au frère de l'autre, de la concierge, 3 siècles avant, mais afin que chacun puisse reconnaître un petit peu ses torts, ses implications, tout simplement.
Mais donc Laetitia...
Wilfred, une intervention sur l'interview de Laetitia ?
Écoutez, je pense que Laetitia montre ce qu'elle a montré depuis longtemps, c'est-à-dire une capacité, une très bonne capacité à parler devant les gens, ce qui en a fait une très bonne présidente. Je l'ai vu de là où j'étais, ce qui en a fait une très bonne ministre. Donc, je suis très très content de ce qu'a fait mon ancienne collaboratrice et voilà.
Donc, c'est terminé pour l'interview de Laetitia. Donc, Laetitia, merci d'avoir répondu à nos questions.
Mais je vous remercie de m'avoir accueilli, de m'avoir permis de m'exprimer ainsi devant le peuple confédéré.
De toute façon, Laetitia, vous restez avec nous, j'espère, pour l'interview de Wilfried.
Mais bien sûr, interview qui sera, je n'en doute pas, passionnante et que je vais écouter avec beaucoup d'attention à côté de mon Alexis Chéri.
Donc, Wilfried, alors intéressons-nous à nous. Bonjour Wilfried, donc une deuxième fois, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors Wilfried, il s'avère que cette interview est particulière, car vous êtes là sous la forme d'esprit.
En effet, comme vous le savez, j'ai été tué par un général brun lors de l'annexion d'Acropole, il y a quelques mois, quelques semaines. Et donc je suis allé chez la grande déesse, évidemment, qui n'était surtout pas, je suis gédéiste et je le resterai. Donc je suis revenu là quelques temps pour prendre des vacances, pour revoir quelques anciens amis, pour hanter mes anciens ennemis aussi. C'est plutôt sympathique et voilà.
Avec vous. Alors ce statut d'esprit, il est intéressant. Comment vous pensez que vous pouvez être là en tant qu'esprit ? Est-ce que tout le monde peut revenir en tant qu'esprit ? Ou est-ce que c'est juste le fait que vous croyez en la grande déesse ? Et d'ailleurs, de là où vous êtes, est-ce que vous l'avez déjà rencontrée, cette grande déesse ?
Je n'ai jamais rencontré la grande déesse parce que là où je suis, il y a beaucoup de monde, ce qui pense ou devrait penser en la croit ou devrait croire en la grande déesse, puisqu'évidemment elle existe. Je ne l'ai jamais vue parce qu'évidemment elle essaye de rester discrète. Et je pense que le fait que ce soit possible pour moi de revenir, c'est tout simplement que je le veux. Et évidemment, c'est très difficile de vouloir revenir dans le cybermonde, puisque là-haut, c'est bien plus sympathique. Vouloir revenir ici s'apparente un peu à une torture sadomasochiste.
Peux-tu raconter un peu comment c'est justement là-haut ?
Non. Je ne peux pas. Il faut que vous voyez par vous-même. Très difficile de le décrire et souvent très, très subjectif.
Ouais, donc si demain on se réunit avec des amis et qu'on allume une bougie autour d'une table, en lançant des invocations, est-ce que vous allez venir en secouant la table, en tapant une fois pour oui, deux fois pour non ?
Mais ce n'est pas aussi simple que ça, il faut le faire sincèrement, si vous ne croyez pas dans la grande déesse, ça ne sert à rien. Cependant, il peut que vous attiriez les fougues de vos voisins de trop de bruit. Mais je ne vous garantis rien.
Donc ici, en tant qu'esprit, je suppose que vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez traverser les murs ?
Absolument, et je peux m'introduire dans la salle de bain de Laetitia pour la voir nue. Ce que je ne fais pas par respect pour cette famille Alexis.
Hey, c'est clair que c'est un bon avantage que de pouvoir aller voir les filles nues.
Tout à fait.
Vous êtes sûr que vous ne le faites pas pour Laetitia ? Vous n'êtes pas tenté ?
Non, et puis même si je le faisais, je ne le dirais pas en direct.
Pardon, Laetitia souhaiterait agir, oui ?
Je trouve que Wilfried est un petit peu coquin là. Déjà à l'époque, il y avait certaines de mes affectations qui étaient un petit peu suspectes. Je commence à douter.
Et arrêtez de douter, je suis au pays de la grande déesse, j'ai tout ce que je veux et je peux y retourner quand je veux, donc ne vous inquiétez pas.
Mais alors, si vous n'avez pas vu la grande déesse, qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes au pays de la grande déesse ? Si bien, Nar est le seul dieu et vous êtes dans l'antichambre de Nar.
Si c'était le cas, alors revenir sur le cybermonde serait équivalent au paradis. Or, ce ne l'est pas, donc je suis convaincu et confiant.
Nar est peut-être gentil ?
Et peut-être aussi que Docteur Narcotique est intelligent.
Et paf, ça c'est envoyé.
Alors Wilfried, on va s'intéresser maintenant un peu plus à votre vivant. Donc vous avez occupé de nombreux postes de ministre, mais jamais président. Comment cela se fait-il ?
Eh bien, c'est une très bonne question. Je pense qu'il faut regarder en direction justement du docteur Narcotique et d'autres. La première fois que j'ai postulé pour être président, c'était suite à l'élection de Collinou, donc nommé ministre de la guerre, où j'estime avoir fait un très bon travail. J'étais contre vous-même, je crois. J'étais contre Anna de Aziris et quelques autres qui. Anna de Aziris qui avait le docteur Delco avec elle, et donc personnage très puissant. Et donc j'ai perdu au premier tour, elle s'est avec plus de 50% des voix. Ensuite je me suis représenté...
Oui parce que moi je ne me suis jamais présenté. Hein.
Non, ce n'est pas à vous que je pensais, désolé. Je me suis ensuite représenté et je suis passé au deuxième tour avec plus de 69% des voix. Et j'étais contre le docteur Narcotique donc.
Il me semble que c'était Loup Solitaire le troisième, non ? Un truc comme ça ?
Voilà, et ça doit être ça, mais l'histoire l'a oublié. Et ensuite, au deuxième tour, j'ai perdu avec une voix de différence. Il prouve quand même que nos programmes étaient plutôt similaires et que le peuple confédéré était plutôt partagé sur ce point. Je ne reviendrai pas sur le fait qu'il ait fait la mauvaise décision, ça s'est vu après. Mais voilà, c'est en fait, il faut aller dans la direction du peuple confédéré.
Oui, alors d'ailleurs, on peut se demander si le peuple s'était vraiment trompé en nommant Narcotique, car après, ce fut une période noire de la Confédération libre quand même. Nous avons eu l'arrivée du Chiss. Alors on m'a reproché dernièrement de parler de l'histoire ancienne, mais bon, vous étiez quand même pleinement acteur de cette histoire ancienne. Alors expliquez-nous quel rôle vous avez joué durant le Chissme.
Alors c'est plus complexe que ça en a l'air. J'avais dès le départ, depuis que j'étais en théocratie sicilienne, des très bonnes relations avec le Don Giovanni. Et arrivé en confédération, j'ai tout de suite gardé contact avec lui, puisque c'était très sympathique tout d'abord, et en plus qui était plutôt puissant. Et donc tout s'était bien passé jusque-là, et jusqu'au moment où les Giovanni ont décidé de séquestrer le docteur narcotique. Et ainsi... Vous savez, je n'étais pas du tout avec eux. J'ai fait ce coup d'État simplement parce que j'essayais de contrer les Giovanni qui, eux, essayaient de prendre le pouvoir par la force, alors que moi, j'étais là, tout seul, voyant que le président ne pouvait pas assumer ses tâches, pas démissionner, j'étais bien obligé de fournir quelque chose, de fournir une... à la confédération, parce que une confédération sans président, c'est pire qu'une confédération avec un président nul. Donc j'ai essayé de prendre le pouvoir, non pas par la force, mais en essayant de fournir quelque autorité au ministre afin de pouvoir continuer dans une bonne direction jusqu'à des
Ensuite, vous parlez d'un président. Vous parlez d'un président nul, donc le docteur narcotique, je suppose. Vous venez quand même d'avouer là, et c'est la première fois, il me semble, que vous faites cet aveu. Le docteur narcotique, on lui a beaucoup reproché d'être parti en vacances. Là, vous venez d'avouer quand même clairement qu'il a été enlevé par les Giovanni. Alors à partir de là, pourquoi n'avez-vous pas cherché à l'aider, à aller le sauver, à repousser le coup d'État? Pourquoi tenté...
Regardez-moi, petit, gros, noir...
Je vous vois, mais c'est pas facile, vous êtes translucide.
En effet, bon, regardez-moi, à l'époque, j'étais seul, j'étais avec mon mari Copros, qui, avouons-le, n'avait pas tellement de pouvoir ni de capacité mentale, j'étais seul, et les Giovanni sont une cinquantaine, et séquestrant le docteur narcotique, je me voyais mal... aller taper à la porte de la villa des Giovanni à Bottine et leur demander gentiment de le libérer. Alors, j'ai fait ce qui était en mon pouvoir, c'est-à-dire tenter ça, et ça n'a pas marché, c'est malheureux.
Vous auriez pu mettre aussi un gros élémental de feu sur le pas de porte du palais impérial.
Ce n'est pas moi qui ai fait ça, monsieur. Je n'ai pas de telles capacités.
Bon, ça coûte pas cher un élémental de feu, il me semble qu'on en trouve à Cap.
C'est possible, mais je ne vois pas de quoi vous voulez parler.
Roland, vous aviez une question?
Oui, je voulais justement intervenir pour savoir si vous étiez passé président, vous pensez que vous auriez évité le duchy?
J'aurais probablement évité le duchisme parce que les Giovanni avaient largement plus confiance en moi qu'en le docteur narcotique. Donc à partir de ça, j'aurais probablement évité le duchisme et j'aurais probablement pu négocier d'une meilleure façon avec l'Empire Brun que l'a fait le docteur Giovanni.
Vous auriez évité le duchisme, mais est-ce que vous n'auriez pas été à l'origine du wilfrisme?
On peut dire ça avec n'importe quel président, monsieur. C'est un peu facile.
Pas n'importe quel président. Là, on parle quand même de faire un coup d'État. Si vous aviez réussi votre coup d'État, bon, qu'est-ce que le peuple aurait vu? Il aurait vu un docteur narcotique fraîchement élu et un Wilfried qui vient et qui fait un coup d'État.
Qu'est-ce qu'il aurait vu? Il aurait vu un Wilfried qui tente de rétablir un petit peu la situation en offrant au peuple... le président qui lui revient de droit, peut-être pas celui qu'il a élu, mais celui qu'il a presque élu à une voix de différence, et peut-être assurant l'intérim jusqu'aux prochaines élections où peut-être le docteur narcotique aurait pu retrouver son poste.
Alors, pendant cette période du duchisme, où je pense qu'on peut dire que vous avez collaboré, que vous étiez dans ce gouvernement...
On peut dire que j'ai travaillé avec les Giovanni, mais ce n'était pas exactement collaborer, c'était plutôt essayer d'imposer mon propre point de vue, c'est-à-dire celui du peuple à presque 50%, à celui d'apporter mes capacités et de les offrir au peuple confédéré, c'était pas exactement de la collaboration, c'était de la coopération, disons, mais ce n'était pas parce que j'étais avec les idées du 12, je pense plutôt qu'il faille travailler avec n'importe qui tant que c'est pour le peuple confédéré.
Alors ça, je peux le comprendre. Cependant, il y a quand même eu, on peut dire, deux phases durant le dutchisme. Une phase assez tranquille au début, où Don Kalshim se présentait comme le libérateur de la Confédération face à la menace brune, qui était présente, hein, là-dessus, il n'y a pas de doute. Par contre, dans la deuxième phase, on a assisté à la révélation, où Don Kalshim est devenu soudain plus virulent dans ses propos, laissant toujours moins de liberté. On sentait qu'il voulait vraiment tenir le pays avec une main de fer dans un grand fer. Pourquoi là n'avoir pas réagi et aider la résistance à s'organiser? Pourquoi avoir continué à...
Parce que c'était nécessaire, oui. Monsieur, je ne sais pas si vous vous rappelez de Confédération à l'époque, mais il ne plus que trois provinces, si je me rappelle bien, et l'Empire Brun était omniprésent, et partout où on regardait, c'était le confédéré qui souffrait. Alors peut-être il fallait-il quelqu'un d'axiste pour contenter les confédérés, mais je pense plutôt qu'il fallait quelqu'un de dur pour pouvoir les repousser. Par exemple, j'en prends pour exemple la milice de Forum qui a su rassembler tous les confédérés de Forum, quelles que soient leurs idéologies, les rassembler ensemble et combattre un par un les clones de l'Empire Brun qui étaient sur place. Je pense que c'est de la coopération et de liberté qu'a le gouvernement, évidemment, pour justement se libérer de l'égide de l'Empire Brun. Ce n'était pas de la dictature, c'était, comment dire, une loi marque c'est l'ennemi.
Ça ressemblait quand même beaucoup à une dictature, et une question qu'on peut se poser, c'est... Vous dites qu'il ne restait plus que trois provinces à la Confédération libre. À partir du moment où ces trois provinces étaient donc sous le règne de Don Kalshim et du dutchisme, est-ce qu'on peut vraiment dire que la Confédération libre, d'ailleurs qui s'appelait la Confederazione à l'époque, peut-on vraiment dire qu'elle existait encore avec trois provinces? Est-ce que la Confédération libre n'était déjà pas complètement morte de toute façon, et il fallait tenter tout et n'importe quoi?
La Confédération
libre. Sauf aller balancer des missiles.
La Confédération libre n'était pas complètement morte, comme vous dites, puisque aujourd'hui, quand on la regarde, il y a quand même quelque chose. Et pas un fantôme translucide. La Confédération libre est tellement affaiblie par certaines traîtrises. Je pense par exemple à la déstructurie qui s'en est allée seule et en nous laissant comme ça. Je pense à Telia, justement, président actuel, qui a vendu le BOS. Je pense à Lucas Brasi, qui a aussi vendu le BOS. Justement, je pense que la Confédération libre n'était pas morte, elle est trahie. Et je pense que le Don Giovanni était là pour rassembler ceux qui restaient et opposer une force aux traîtres, justement.
En même temps, y a un truc qui est incohérent là. Je peux comprendre que vous dites que Lucas Brasi est un traître ou que Telia était un traître et que le Don Kalshim aurait voulu donc faire une force face à ces traîtres. Seulement, vous mettez dans le sac quand même la déstructurie et beaucoup de citoyens qui tournaient vers le giron du FNC à peu près par là. Pourtant, ceux-ci sont devenus virulents qu'après l'arrivée du dictateur, quand même. Le Don Kalshim n'a pas vraiment unifié ce qui restait de confédérés. Il a créé un nouveau groupe qui était la Confederazione. C'était pas vraiment... est-ce que vous voyez ce que je veux dire? On peut pas vraiment mettre tout...
Je comprends très bien ce que vous voulez dire. La déstructurie a préféré s'en aller, c'est-à-dire quitter la Confédération au moment où elle était au plus bas. J'appelle ça de la traîtrise et peut-être... Ça coïncide-t-il avec l'arrivée au port du Don Giovanni, mais je pense pas du tout que ça y soit, ou alors c'est vraiment que les déstructuriens n'ont vraiment rien compris à l'idéologie giovanniste.
Ce qu'ils voulaient, c'était avant tout être libre.
Oui, a priori, la déstructurie n'a pas quitté la Confédération, elle a quitté la Confédération, pour rester justement en Confédération.
Ce n'est qu'une question prononciation, monsieur.
Non, il y a toute une question.
Une question de prononciation.
Je disais que c'était toute une question d'idéologie derrière, pas que de prononciation.
Il y a, c'est vrai, un sens derrière l'image de la Confédérazione, parce qu'au moment où ce terme est apparu, la Confédération était justement au plus bas et il fallait réunir. Donc la Confédérazione a pris un sens d'unification, a pris un sens de pouvoir au peuple. Donc c'est peut-être vrai qu'il y a une idéologie derrière, mais je pense qu'au final, c'est la même chose.
Sinon, à part ça, est-ce que dans l'au-delà où vous vous trouvez, il y a encore des conflits comme on en a connu sur le cybermonde? Est-ce qu'il y a toujours des tensions là où vous êtes?
Je sais pas, j'essaye de ne pas trop m'impliquer là-dedans, j'ai déjà fait ça assez de mon vivant, donc je préfère largement m'isoler avec mes sandwichs.
Une intervention d'un auditeur, c'est pas vraiment une question, une anecdote de monsieur Lucas Brasi justement qui vous fait parvenir un petit message.
J'écoute.
Oui, donc il vous demande de vous rappeler quand il est venu vous demander de vous dire qu'il aura pas besoin de sa voix, que vous auriez pas besoin de sa voix, parce que on n'est pas une voix près, quoi.
C'est possible. Mais je lui avais justement demandé de voter pour moi, comme Alexis Circonflexe, je lui avais demandé, j'ai demandé à plusieurs de mes amis, à plusieurs de mes proches, à plusieurs personnes qui pensaient de la même façon, à plusieurs personnes que je voyais plutôt intelligente de voter pour moi. Certains ont oublié de le faire. Ça m'a coûté l'élection, ça a coûté à la Confédération une grande période noire. Donc je pense que c'est terminé maintenant.
Voilà, eh bien merci Wilfried pour ce temps que vous avez passé avec nous. Donc l'interview est terminée.
De m'avoir accueilli, c'était très sympa.
Donc j'espère que vous penserez à nous depuis l'au-delà.
J'y penserai, oui. J'essaierai de regarder. Progrès de vous écouter toutes les semaines.
Parce qu'il y a la radio là où vous êtes ?
Ah, évidemment, il y a tout là où je suis.
Et on peut espérer que vous reveniez un de ces quatre ?
On peut, si je me fais chier là-haut, je viendrai passer un petit bonjour.
Bon, eh bien, bonne journée Wilfried. Et Roland, il me semble donc que voilà. Vous aviez une dernière chose à dire ?
Oui, pour Madame Laetitia, j'ai une dernière nouvelle là, qui vient de m'arriver de Vladimir. Dans les prochains jours, Nirla va donc être démis de son poste. Et qui trouve bien sûr que les interventions des Créelon sont irrespectueuses et vont bientôt être réglées.
Très bien, j'en prends bonne note. Une information qui est cependant à mettre en regard des liens qui existent entre la famille Corleone et Tipardono ainsi que Giovanni de Butro justement, afin de bien resituer un petit peu le contexte de cette histoire.
On peut espérer aussi que de leur côté, les deux structuriens prendront bien note de cette action qui est faite dans leur sens, et qu'on peut espérer, enfin, que pour une fois, ces conflits entre la déstructurée et le Valais Gros vont pouvoir se calmer. Parce qu'il paraît d'ailleurs que le Valais Gros, il me semble, qu'il est possible que le Valais Gros revienne prochainement en Confédération, Laetitia ?
Eh bien, ce que je dis, c'est que l'intervention militaire d'interposition qui se déroule en ce moment au Valais Gros va, quelle que soit son issue, rapprocher, resserrer les liens qui existent entre la Confédération et le Valais Gros, ça c'est certain. Par contre, de là à parler d'un retour du Valais Gros en Confédération libre, cela me paraît encore un petit peu tôt pour en parler de manière aussi certaine. En revanche, il s'agit d'un pas qui est fait dans une direction qui est, je pense, la bonne.
D'ailleurs, tant que je vous ai là, avant de quitter l'émission, il me semble qu'il y avait des discussions, des pourparlers aussi avec le Mystizi fut un temps. Ensuite, vous êtes vous-même poulpistanaise et vous êtes actuellement ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous pensez que pour ces deux provinces, il pourrait y avoir des retours en Confédération libre ?
La Mystizi, comme, euh, comme je le disais tout à l'heure, je pense que c'est Telia qui pourrait nous en dire plus, car il a suivi ce dossier de très près, il tenait à le suivre personnellement. Donc, comme il suivait ce dossier en personne, à l'époque où j'étais ministre de l'Intérieur, j'avais relativement peu d'informations de terrain, dirais-je, alors que pour le Requiem ou les Mouchis, par exemple, je m'étais déplacé personnellement afin d'être sur le front, entre guillemets. Donc pour la Miss TV, je répondrais « Voyez avec Télia ». Ensuite, pour le Poulpistan, comme je l'ai évoqué auparavant, nous avons un mouvement donc de poulpes plus ou moins notables qui reviennent en Confédération libre et un mouvement qui a été amorcé là-bas il y a déjà un bon mois, voire un peu plus, pour parler d'un retour du Poulpistan en Confédération libre sous certaines conditions, peut-être un matin ou pas. C'est encore un petit peu tôt pour dire le Poulpistan revient. Cependant, ça paraît moins impossible qu'il y a quelques semaines. Parce qu'aujourd'hui, les discussions qui se déroulent en ce sens ne sont plus bloquées et verrouillées comme elles ont pu l'être par le passé.
Une dernière question de la part d'un auditeur. Donc, c'est Monsieur Roger. Monsieur Roger de Requiem qui pose une question pour Wilfried. Wilfried, si je suis dans le coma, est-ce qu'il y a des chances que je vous voie?
Non, aucune, surtout que je ne le connais pas, donc je vois pas pourquoi j'irai le voir.
En fait, la question, c'est vraiment de savoir.
À moins qu'il s'agisse d'un coma éthylique, auquel cas, bien sûr, les données du problème doivent être réexaminées à la lumière des nouveaux éléments.
Ouais, là, il risque de voir un peu n'importe qui, là. Même pas, pourquoi pas Fidel Guevara?
Voilà, pourquoi pas. Mais ne pas trop loin non plus, lui, il est mort de chez mort.
Bon, eh bien, merci. Donc, c'est la fin de cette émission, donc 3e édition de Libre Radio. Nous avions des invités exceptionnels cette semaine, quand même. C'était vraiment une très bonne émission, j'ai passé un bon moment. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, donc?
Écoutez, pour ma part, je trouve que c'est...
Allez, vous n'avez pas tous en même temps.
Je suis très heureux que d'être passé par ici justement au moment où je reviens sur le cybermonde. Je suis très heureux d'avoir pu revoir Laetitia et surtout d'avoir participé à une émission dont le début paraît très prometteur. Continuez comme ça.
Roland, à vous.
Pour ma part, j'ai trouvé cette émission fort agréable, toujours comme d'habitude, quoi. C'est on voit pas le temps passer, hein. Toujours aussi bien ici.
Quant à vous, Madame la Ministre de l'Intérieur, qu'est-ce que vous en avez pensé?
Eh bien, j'étais heureuse de pouvoir m'exprimer sur vos ondes et de profiter de cette tribune pour m'adresser à l'ensemble de la population confédérée, du moins la population confédérée qui a la radio. Je souhaite à Libre Radio de poursuivre cette expérience démocratique aussi longtemps que la Confédération Libre continuera d'exister, avec des débats tout aussi passionnants et engagés.
Donc on peut espérer vous revoir un jour ou l'autre? Voilà, donc il est vraiment temps de rendre l'antenne cette fois-ci. Enfin, on rend l'antenne à personne, en fait, vu qu'il y a une autre émission pour le moment qui tourne. Donc, passez à tous une excellente fin de journée. Et à la semaine prochaine, donc, pour l'édition numéro 4.
Libre Radio, la radio qui libère ta liberté.